jour, il arriva qu'il vint là, et qu'il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son jeune homme, « Appelle cette Tsunamite. » Et il l'appela, et elle se tint devant lui. Et il dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, voici, tu as montré pour nous tout cet empressement. Qu'y a-t-il à faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Et elle dit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Qu'y a-t-il donc à faire pour elle ?» Et Géasi dit, « Eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Et Élisée dit, « Appelle-la. » Et il l'appela et elle se tint dans la porte. Et il lui dit, « À cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. » Et la femme conçut et enfanta un fils à cette même époque, quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant grandit. Il arriva qu'un jour, il sortit vers son père, vers le moissonneur. Et il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Et le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère. » Et il l'emporta et l'amena à sa mère. Il resta sur ses genoux jusqu'à midi et mourut. Et elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle ferma la porte sur lui et sortit. Et elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Et elle dit, « Tout va bien. » Et elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune homme, « Mène-la et marche, ne t'arrête pas dans la course, à moins que je ne te le dise. » Et elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Et il arriva que, quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Géasi, son jeune homme, « Voici cette Tsunamite. Cours maintenant, je te prie, à sa rencontre et dis-lui, « Tout va-t-il bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Et elle dit, « Bien. » Et elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne et elle le saisit par les pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser. Et l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » Et l'Éternel ne l'a caché et ne l'a pas déclaré. Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et il dit à Géasi, « S'intéresse et prends mon bâton en ta main et va-t'en. Si tu trouves quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Et tu mettras mon bâton sur le visage du jeune garçon. » Et la mère du jeune garçon dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et il se leva et s'en alla après elle. Et Géasi le devança, et il mit le bâton sur le visage du jeune garçon, mais il n'y eut pas de voix, pas de signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, et lui rapporta, disant, « Le jeune garçon ne s'est pas réveillé. » Et Élisée entra dans la maison, et voici le jeune garçon était mort, couché sur son lit. Et il entra et ferma la porte sur eux deux et supplia l'Éternel. Et il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche et ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains et il se courba sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Et il se retirait et allait par la maison, tantôt ici, tantôt là. Et il montait et se courbait sur lui. Et le jeune garçon éternua par 7 fois, et le jeune garçon ouvrit ses yeux. Et Élisée appela Géasi et lui dit, « Appelle cette Tsunamite. » Et il l'appela, et elle vint vers lui. Et il dit, « Prends ton fils. » Et elle vint, et tomba à ses pieds, et se prosterna en terre. Et elle prit son fils et sortit.
On peut remarquer dans tout ce paragraphe la persévérance d'Élisée. Il commence à passer à Sunem. La femme le retient pour manger le pain. Puis il pince et repince et repince jusqu'à ce qu'elle reconnaisse que c'est un homme de Dieu. Et ensuite, elle lui fait la petite chambre dont nous avons parlé. Des âmes sont amenées parfois au Seigneur en un premier contact, mais généralement, Il en faut plusieurs. Si nous avons contact avec quelques personnes de notre entourage, de nos collègues ou autres, il ne faut pas se décourager si au bout de deux ou trois fois, il semble n'y avoir pas beaucoup de résultats. Élisée y est venu, revenu, revenu. Et alors, on l'a reconnu comme un homme de Dieu, et on peut dire, le Seigneur est entré dans cette maison. Et alors, depuis notre lecture, un jour qu'il est là, il voudrait marquer sa reconnaissance à la Tsunamite pour l'avoir reçue. Il l'a fait appeler. Et dis-lui, voici, tu as montré pour nous tout cet empressement, qu'y a-t-il à faire pour toi? Et va un peu la mettre à l'épreuve, faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Peut-être qu'il y a dans les affaires de ton mari un service que le roi pourrait rendre ou le chef de l'armée, ce sera le cas plus tard, le roi lui a rendu les terres. Mais elle a cette réponse toute particulière, j'habite au milieu de mon peuple. Je suis satisfaite, je suis reconnaissante d'habiter au milieu de mon peuple. Et cela peut bien s'appliquer à nous. J'habite au milieu de croyants rassemblés autour du Seigneur. Ce n'est que quelques-uns du peuple de Dieu, mais enfin, c'est fondamentalement quand même une expression de l'assemblée de Dieu. J'habite au milieu d'eux. Je reçois quand je me retrouve avec eux. Je donne, selon les occasions, une sœur peut apporter beaucoup de choses dans une assemblée, dans l'atmosphère d'une assemblée, dans les relations fraternelles. Et un frère de même, même s'il n'est pas appelé à présenter la parole, j'habite au milieu de mon peuple, au milieu de ma famille. Dans la famille, je reçois. Dans la famille, j'apporte. J'habite au milieu de ma famille. Je suis heureuse au milieu de ma famille. Et je suis heureuse dans mon entourage, dans les contacts que je peux avoir, je peux donner, je peux recevoir. La satisfaction reconnaissante de ce que Dieu a donné. On a besoin, comme le dit le cantique qu'on connaît tous, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Reconnaissant de tout ce que le Seigneur nous donne. Et il y a ce verset remarquable de l'Épître aux Romains, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous fera-t-il pas don de toutes choses avec lui? C'est toutes choses, bien sûr, c'est avant tout les bénédictions spirituelles, mais c'est tous les soins du Seigneur. Dans Timothée, Dieu nous donne toutes choses richement pour en jouir, et pour en jouir avec le Seigneur. J'habite au milieu de mon peuple. Élisée, alors, dit à Géasi, qu'a-t-il à faire pour elle? Géasi, et cette réponse un peu ambiguë que nous avons lue, appelle cette Tsunamite. Elle revient, elle ne dit pas, j'aimerais tellement avoir un fils. Mais le prophète a discerné, et puis Géasi le lui a montré. Et on peut remarquer, elle se tient dans la porte, elle n'entre pas dans la chambre. Et il lui dit, à cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. Elle hésite à croire à une si bonne nouvelle. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne ment pas à ta servante. Mais elle conçut et l'enfante un fils. Quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. La même expérience de Sarah, n'est-ce pas? Et d'autres femmes, à travers la parole, la puissance de vie de Dieu. Elle n'avait pas d'enfant, depuis longtemps elle en désirait. La puissance de vie de Dieu l'en a donnée. Elle a accueilli le prophète, elle l'a entouré, elle a apprécié ses visites, elle a reçu ce que son cœur désirait.
Quand Élisée était passé les premières fois à Sunem, il n'avait pas de messager devant lui pour le faire accréditer. Personne pour l'annoncer. C'est une de ces pages où on le voit tellement dans l'attitude du Seigneur lui-même.
l'étranger céleste, qui n'était pas annoncé, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, assisté de quelques femmes. Alors on l'a dit, elle lui a ouvert sa porte. Tout commence par l'hospitalité, par le pain offert à la table, puis par la chambre haute pour retenir celui qui est l'homme de Dieu. Et voilà que on entre maintenant dans les vrais problèmes de cette demeure, les besoins profonds de la foi de cette femme. Une prière probablement ardente, probablement lointaine, et qui jusque-là n'avait pas reçu de réponse. On l'a donné divers exemples, Sarah, Zacharie et sa femme Élisabeth, tant d'autres qui ont attendu, attendu. Il va y avoir trois fois appel cette femme. Le premier, c'est un appel, c'est l'exercice de la foi. Le second sera la réponse donnée à cette foi. Le dernier qu'on voit à la fin de notre passage, quand l'enfant sera rendu, la consolation de la foi. Le premier appel, cette femme. La femme vient et elle se tint devant lui. Cette expression est très belle. Elle se tint devant l'homme de Dieu, devant l'homme qui se tenait devant Dieu. Elle a devant Élisée l'attitude qu'Élisée avait devant Dieu. Elle se tint devant lui. Alors que veux-tu? Voici, tu as montré pour nous tout cet empressement. Qu'y a-t-il à faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. On vient de commenter ce passage. Tu es riche, tu es dans l'aisance, mais en te fatiguant beaucoup, veux-tu un peu plus de richesse? Veux-tu un peu plus d'aisance? C'est l'exercice de la foi, cela. Tu as des biens, mais tu pourrais, si je parle au roi pour toi, en avoir encore davantage, et sans te fatiguer, comme tu le fais, je l'ai vu. J'habite au milieu de mon peuple. C'est un peuple, oui, qui est un peuple infidèle, mais Dieu m'a placé là, et je désire rester là où Dieu m'a placé. Un peu le choix de Moïse. Il choisit de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que quoi qu'il fût, il était le peuple de Dieu. Cette femme a conscience que de toute la misère de son peuple, de toute l'infidélité de son peuple, mais pour elle, il est, il demeure le peuple de Dieu. Alors, Géasi va dire, qu'y a-t-il donc à faire pour elle? Alors à nouveau appelle-la, elle se tient devant la porte. Et alors la réponse va être donnée à cette foi. C'est la même expression, c'est la même scène que l'on a vue dans la famille d'Abraham. Quand l'ange est venu, quand l'ange a annoncé et que maintenant il faut attendre et l'enfant va être donné. La réponse à la foi après l'exercice de la foi.
Par trois fois, cette femme est appelée. Dans le verset 12, appelle cette Tsunamite. Au verset 15, appelle-la. Et nous le verrons au verset 36, appelle cette Tsunamite. La première fois, c'est un appel, comme nous l'avons entendu, pour que sa spiritualité, l'exercice de son cœur, son état spirituel soit mis en évidence. Elle est appelée pour connaître un exercice de cœur. La deuxième fois, l'état de son cœur étant démontré, elle est appelée pour entendre une promesse précieuse qui dépasse de loin tout ce que son cœur aurait pu souhaiter. La troisième fois, après une grande épreuve, elle est appelée pour jouir des fruits bénis de cette épreuve, ceux de la résurrection. La réponse de cette femme lorsqu'elle est appelée la première fois est en effet remarquable. J'habite au milieu de mon peuple. On vient de l'entendre. Elle ne souhaite pas tirer profit de la puissance de l'homme de Dieu pour qu'elle ait un bénéfice humain, matériel quelconque. Elle s'attend à son Dieu. Attitude tout à son honneur, qui met en évidence l'état de son âme. Mais n'y a-t-il pas deux aspects dans cette expression « j'habite au milieu de mon peuple » ? D'une part, ce que l'on a entendu, et d'autre part, cette femme spirituelle discerne sans doute l'état du peuple Israël. Elle sait par qui il est gouverné, quel est le caractère du roi qui règne sur lui. On peut bien penser que le discernement qu'a cette femme l'a conduit à souffrir de l'état de ce peuple. Mais elle ne se dissocie pas du peuple lui-même, elle porte son peuple, le peuple sur son cœur. Mais il y a une grande différence entre l'état de cette femme qui ne se dissocie pas du peuple parce que c'est le peuple de Dieu en dépit du fait qu'il est dans un état fâcheux de désobéissance, de rébellion, qui sans doute est une grande souffrance pour elle. Il y a une grande différence avec l'identification que nous avons vue en la personne de Josaphat qui alors s'identifie à l'impiété du roi d'Israël en prononçant les paroles que nous avons lues, « Moi, je suis comme toi ». On peut et l'on doit s'identifier ou s'assimiler quant à la responsabilité que nous portons devant Dieu de l'état de la chrétienté professante et nous ne pouvons pas en sortir. Le témoignage de Dieu, l'Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu est au sein de la chrétienté professante, nous habitons au milieu, nous sommes là, nous ne pouvons pas en sortir. Et nous portons avec humiliation devant Dieu ce qu'est devenu cette grande maison. Mais alors, de nos cœurs et dans notre marche, nous sommes appelés à nous séparer de l'iniquité qui s'y trouve, ce qui est autre chose. Nous connaissons les enseignements de 2 Timothée. Si quelqu'un se retire, quiconque se retire de l'iniquité, il sera un vase à honneur. Il n'est pas dit qu'il peut se retirer de la grande maison, il s'y trouve. Les vases à honneur, comme ceux à déshonneur, sont dans la grande maison. Mais ce qui est requis de l'homme fidèle, du croyant qui désire être fidèle, c'est de se séparer du mal qui s'y trouve, si quelqu'un se retire de ceci et non pas de celle-là en parlant de la maison. Donc, une grande différence. D'une part, j'habite au milieu de mon peuple, un peuple qui vit dans l'iniquité, qui a oublié son Dieu, qui le déshonore, dont on porte la charge en humiliation, tel était le cas d'un Daniel, tel fut le cas des hommes de Dieu qui ont porté en disant devant leur Dieu, nous avons été infidèles. Mais d'autre part, ils se séparent de l'iniquité qui s'y trouve. Nous l'avons vu d'une manière fort évidente, éloquente et solennelle l'an dernier dans la fin de la considération de la fin du livre d'Esdras. Nous avons été fidèles, peut dire cet homme de Dieu Esdras. Il habite au milieu de son peuple. Vous avez été infidèles. Il prend une position personnelle de séparation en condamnant le mal qui s'y trouve.
Cette femme, il y a un verset intéressant et encourageant dans le psaume 145. Nous n'entendons pas qu'elle a prié. Si nous la comparons à Anne, la mère de Samuel, quelle différence ? Anne, qui sera la mère de Samuel, monte au tabernacle, elle vient prier longuement, elle pleure abondamment. C'est une femme dont le cœur est rempli de chagrin, au point que le souverain sacrificateur se méprend sur son état et croit qu'elle est ivre. « Non, mon Seigneur, je suis une femme dont le cœur est plein d'amertume. » Elle souhaite avoir un fils, elle le dit à l'Éternel, non pas seulement pour la satisfaction de sentiments naturels qui sont tout à fait légitimes, mais c'est pour le donner à l'Éternel. Femme pieuse en Israël, elle désire amener sur la scène un instrument qui sera employé par Dieu pour la bénédiction et la délivrance de ce peuple. Anne qui représente l'esprit du résidu, Samuel, la bénédiction accordée à ce résidu. Et en effet, Dieu va intervenir comme il a été intervenu dans les cas qui ont été placés devant nous, commencé par Sarah et d'autres. Dieu va intervenir et va donner à cette femme, en réponse à sa prière ardente, faite au vu et au su de tous, et elle dira, voilà, en amenant l'enfant au tabernacle, j'ai prié pour cet enfant. Et Dieu a exaucé Samuel, porte d'ailleurs ce nom qu'elle indique dans cette circonstance, Dieu qui exauce. Nous n'entendons pas cette femme, nous ne voyons pas cette femme à Sunem, prier en aucune manière. Mais Dieu lit dans les cœurs. Il y a des cas où une prière n'est pas formulée. Mais quel encouragement si nous lisons l'Épître aux Romains chapitre 8, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Nous n'entendons pas cette femme prier à haute voix, répandre son cœur, pleurer, attirer sur elle l'attention. Mais Dieu, dans le secret, lit dans le cœur de cette femme. Et les soupirs qu'elle a poussés sans doute, Dieu les a interprétés. Et nous lisons dans le psaume 145, il accomplit, verset 18, il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Le souhait ardent de cette femme, même s'il n'est pas formulé, s'il n'est pas exprimé, avec autant d'affirmation que le fut le souhait, le désir de Anne, Dieu néanmoins a entendu, a vu, a considéré ce besoin, et il va y répondre selon une grâce qui ne fait jamais défaut.
Alors, il a été répondu au désir de cette femme, elle a l'enfant, et l'enfant grandit. Dans chaque famille, les enfants que nous recevons de la main de Dieu grandissent, et viennent les problèmes. L'enfant grandit, va vers les moissonneurs, ma tête, on comprend bien qu'il s'agit d'une insolation. Mais enfin, la pensée est là. Qu'est-ce que l'on a mis dans la tête de cet enfant? On va mettre beaucoup de choses dans la tête de nos enfants, à mesure qu'ils grandissent. Que peut faire le père? On ne voit pas que le père ait eu la foi du tout de sa femme. Il se sent impuissant. Porte-le à sa mère. La mère, avec toute son affection, le prend sur ses genoux jusqu'à midi, mais elle ne peut rien faire. Elle monte, elle le couche sur le lit de l'homme de Dieu, elle ferme la porte sur lui. Voilà ce petit qui est là, dans la chambre, comme plus tard sera la fille de Jaïrus. Que fait ? Elle s'en va vers l'homme de Dieu. Elle fait sceller l'ânesse, un jeune homme l'accompagne. « Je courrai jusqu'à l'homme de Dieu, je reviendrai. »« Pourquoi vas-tu vers lui ?» dit le mari. « À quoi est-ce que ça sert? C'est pas un jour de fête. » Elle ne dit rien. Elle dit « Tout va bien. »« Ne m'arrête pas dans ma course, à moins que je ne te le dise. » Et alors cette rencontre. L'homme de Dieu sur la montagne du Carmel, c'était une grande distance depuis Sunem. Il la voit de loin. Voici cette Tsunamite. Cours maintenant, je te prie, à sa rencontre. Dis-lui, tout va-t-il bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est pas à cet homme qu'elle va à Géasi, qu'elle va dire sa peine. Bien. C'est une réponse très sèche. Bien. Au mari, elle a dit, tout va bien. Elle a une foi qui pense que Dieu interviendra à Géasi. Bien. Elle vient vers l'homme de Dieu, le saisit par les pieds. L'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. L'Éternel me l'a caché, ne me l'a pas déclaré. On voit toute la sympathie d'Élisée, même sans savoir pourquoi cette femme venait vers lui. Il sait qu'elle est dans l'amertume. Il va lui témoigner sa sympathie d'homme de Dieu. Ah, mais il faut beaucoup plus que de la sympathie. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Alors Élisée comprend. Et alors comment va-t-on faire pour ramener l'enfant à la vie? Il y a deux méthodes, nous disait une fois un frère. Géasi emploie la méthode bâton. Prends mon bâton, tu le mettras sur le visage de l'enfant. Géasi court, il devance, met le bâton sur le visage du jeune garçon. Il n'y a pas de voix, pas de signe d'attention, bien sûr. Ce bâton a plusieurs significations. Mais ce n'est pas un moyen matériel qui va ramener cet enfant à la vie. Ce n'est pas non plus ce que le bâton peut représenter de sévérité, de rigidité. On essaye de ramener des enfants en étant assez sévère et dur. Ça ne les ramène généralement pas. Il faut que le prophète vienne lui-même. Il entre dans la maison. Voici le jeune garçon était mort, couché sur le lit. Peut-être qu'en partant, la maman s'est dit, il va peut-être se réveiller, il va peut-être se ranimer, mais il s'est écoulé bien des heures, et le prophète arrive et l'enfant est mort. Et alors vient cette persévérance d'Élisée, qu'on a vu déjà lorsqu'il venait et revenait à Sunem, jusqu'à ce que la femme discerne, c'est un homme de Dieu. Élisée monte, se couche sur l'enfant, met sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, se courbe sur lui. La chair de l'enfant se réchauffe. Puis Élisée allait par la maison, puis il montait, se courbait. Et à plusieurs reprises, Élisée a répété cette identification, en quelque sorte, avec l'enfant. Tout son cœur de prophète, toute sa puissance d'homme de Dieu aussi était là. Mais ça n'a pas été fait en un instant. Il a dû revenir plusieurs fois. Il allait, venait dans la maison d'Élie. Il nous a dit qu'il priait avec instance pour ramener un enfant qui semble avoir perdu la vie ou peut-être qu'il ne l'a jamais eu. Ça ne va pas tout seul. Mais ce n'est pas le bâton qui ramène. C'est toute cette affection, cette identification. Ses yeux sur ses yeux, sa bouche sur sa bouche, ses mains sur ses mains. Et la chair de l'enfant se réchauffe. Et petit à petit, le garçon éternue par ses fois. Puis il ouvre les yeux. Et alors, il appelle la Tsunamite, « Prends ton fils. » Le jeune homme que l'on conduisait au cimetière à Naïn, il a suffi que le Seigneur touche la bière et dise, « Lève-toi. » Ah, la fille de Jaïrus, il prend sa main, Talita Kumi, c'est la puissance du Seigneur. Élisée avait bien la puissance de Dieu, mais il a fallu tout ce travail persévérant, à la fois de prière, d'identification, de compréhension, pour que le jeune garçon soit ramené à la vie et rendu à sa mère.
Quand Anne avait prié et avait pleuré parce qu'elle n'avait pas d'enfant, son mari ne l'avait pas comprise. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Quelle épreuve que de sentir quand on prie pour un besoin pressant on est tout seul. Il ne nous est pas dit que cette femme ait prié, mais nous savons que elle était, quoi qu'il en soit, bien seule. Son mari en était encore à une religion de nouvelle lune, comme nous le voyons. Telle était sa religion. Et pour cette femme de foi, elle n'avait aucun secours, semble-t-il, du côté de son mari dans ce domaine-là. Pour les parents de Jean le baptiseur, Zacharie et Élisabeth, ils avaient prié ensemble. Nous n'en doutons pas. Ils marchaient dans toutes les ordonnances, dans tous les commandements. Et quand la réponse vient d'être donnée beaucoup plus tard, tes réponses, ta prière a été exaucée. Des prières, mari et femme, et qui avaient cessé depuis longtemps. Quelle confusion de face pour Zacharie, quand il peut lui être dit, ces prières, tu sais, il y a des années et des années, puis tu t'es lassé, eh bien j'y vais apporter réponse. Ici, la réponse est donnée à cette femme, à l'attente de cette femme. L'enfant est donné, et l'enfant est repris. Aussi longtemps qu'elle l'avait sur les genoux jusqu'à midi, il y avait encore quelque espoir que Dieu répondit. Mais à midi, à l'heure de midi, tout est fini. Alors que fait cette femme? Vivant, elle l'avait reçu du prophète. Mort, elle le lui confie. C'est dans la chambre haute qu'elle va poser le corps. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais c'est Dieu qui peut rendre, serait-ce même par la voie de la résurrection. Alors est la confiance. Alors nous la voyons. Comme Abraham, autrefois, elle fait sceller l'âne, elle prépare le serviteur, et l'on s'en va. Abraham aussi, autrefois, avait fait sceller l'âne, avait préparé le serviteur, et l'on était allé au lieu où il fallait offrir l'enfant et le recevoir par la résurrection. Elle va. Tout va-t-il bien? Tout va bien. Le mari lui dit, en route, on lui dit, tout va-t-il bien? Tout va bien. Tout va bien. Alors que tout va mal. Oui, tout va bien, parce que si le départ de ma route est la vallée de l'ombre de la mort, le chemin dans lequel je m'engage est celui de la maison de Dieu. L'homme de Dieu est là, au bout du chemin. Celui qui a donné, celui qui me répondra, tout va bien. C'est le Dieu y pourvoira, d'Abraham montant au Morija. Il y a dans cette femme la même vision de foi que dans celle d'Abraham montant au Morija. Dieu y pourvoira. Dans ce tout va bien, nous avons là la réponse de la foi. Dieu n'avait rien dit à Élisée. Aurait-il eu la force, cet homme de Dieu, de faire comme le Seigneur quand on lui annonce la maladie de Lazare, de rester dans le chemin de Dieu? Ne serait-il pas revenu rapidement à Sunem? Et alors, l'expérience que Dieu voulait, et pour l'homme de Dieu et pour cette femme, n'aurait pas eu lieu. Dieu n'a pas permis qu'il le sache. Mais alors, il se passe une scène admirable. On l'a dit, l'homme de Dieu propose un moyen d'ordre inférieur à cette femme. Géasi et le bâton qui s'en vont, et si l'on peut dire un moyen d'ordre inférieur. Ah, elle n'en veut pas. Quand le Seigneur était en haut sur la montagne et qu'il redescend de la montagne, ses disciples ont essayé de guérir un démoniaque. Ils avaient entre les mains, si l'on peut dire, le serviteur et le bâton. Ils ne l'ont pas pu. Ah, cette maladie-là ne se guérit que par la prière et par le jeûne, peut dire le Seigneur. Un homme s'approche du Seigneur un jour et lui dit, « Que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Eh bien, tu connais les textes de loi. Fais ceci et tu vivras. Et il s'en va. Il s'en va avec le bâton et le serviteur. Il croit, lui, pouvoir obéir à la loi. Personne ne l'avait pu. C'est un moyen d'ordre inférieur. Ah non, dit cette femme. Quand Élisée lui propose cette réponse-là, et c'est là que l'on discerne la foi de cette femme. L'Éternel est vivant, verset 30. Et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. C'était la parole même d'Élisée suivant Élie, quand Élie lui disait « Reste ». Quel écho peut avoir cette foi? Elle prend l'homme de Dieu comme modèle. La parole de foi de l'homme de Dieu devient la parole de cette femme. Tu n'as pas marché avec une autre force. Tu ne peux pas m'en proposer une autre. Je ne te laisserai point. Et l'homme de Dieu s'en vient. Quelle réponse donner à cette foi? L'homme de Dieu et la tsunamite s'en retournent. L'enfant est ressuscité. L'enfant est né à la vie. Il ne nous est pas dit qu'elle examine cet enfant, voir s'il est vraiment vivant, s'il a tous ses membres, si tout va bien. Elle se prosterne dans la reconnaissance. Elle prit son fils. Est sortie. La même simplicité de la foi, la même plénitude de la foi qu'Abraham prenant son fils et s'en retournant chez lui.
De l'homme de Dieu et j'ose dire aussi d'une femme de Dieu, la tsunamite. C'est en pensant au début de notre chapitre, nous trouvons le chemin pour être un homme de Dieu. Dieu veut faire usage des phrases vides. Nous devons être vides de nous-mêmes. Et les phrases devaient être remplies de l'huile. Et nous devons être remplis de l'esprit. Et l'homme de Dieu était marqué par l'Esprit Saint. C'était un saint homme de Dieu. Et cette femme de Dieu était aussi marquée par l'Esprit de Dieu, pleine de foi, qui ne cherchait pas ses propres intérêts, mais qui se tenait à la parole de Dieu dans la bouche du prophète Élisée. Mais elle prenait quand même la place qu'elle convient. Nous avons l'impression que cette tsunamite était plus spirituelle que son mari. Mais nous lisons quand même dans le verset 10, « Faisons, je te prie, une petite chambre haute. » L'idée venait d'elle, mais elle se tient comme il faut pour une femme d'être soumise à son mari. L'idée vient d'elle, mais elle dit, « Je te prie, faisons ça. » Il y a un cas qu'elle ne pouvait pas s'exprimer à son mari. Elle pouvait s'expliquer, elle pouvait seulement dire « Tout va bien ». Une femme de Dieu qui va son chemin avec Dieu et qui se tenait à la parole de Dieu, à l'ordre de Dieu, « Je ne te laisserai point ». Que nous soyons frères et sœurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, remplies de l'Esprit pour qui Christ est tout.
Nous pouvons constater que la foi, la confiance de cette femme mûrit tous les coups de l'épreuve. Au début, lorsque la promesse lui est faite quant à cette naissance, elle doute, comme avait douté jadis Sarah, ne réalisant pas que ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Elle limite la puissance de son amour, de sa grâce. La chose se réalise, un enfant lui est accordé. Réponse au désir de son cœur, objet de ses affections, elle en est privée, il lui est repris. Et combien il est beau de constater que sa foi, sa confiance augmente au travers de cette épreuve. On l'a déjà dit, il n'a pas d'autre ressource que de s'adresser à celui ou de revenir à celui par qui la promesse avait été exaucée. Où porte-t-elle l'enfant mort? Elle le porte sur le lit de l'homme de Dieu. Elle n'acceptera pas non plus l'emblème de la marche de l'homme de Dieu, mais porté par un autre, le bâton porté par Gehazi. Elle n'a qu'une seule ressource, qu'une seule adresse, c'est de se tourner et de rester vers celui duquel elle a reçu cet enfant et duquel elle peut attendre la délivrance, la réponse. S'il y a une image remarquable dans ces résurrections qui sont réalisées tant par Élisée que par Élie, quant à l'œuvre de la rédemption, nous pouvons y voir cette identification de ces hommes de Dieu, figures de Christ, qui se couchent en quelque sorte sur celui qui est mort. Christ est descendu dans la scène de la mort. Il a connu tout ce qu'elle comporte, afin que de la mort ressorte la vie en résurrection. Mais cela a été dit, il y a toujours la différence entre le type et l'antitype. Lorsque le Seigneur ressuscite des morts, les trois morts, une seule parole suffit. Talita Kumi, ou Lazare, sort dehors. Notons au passage que le Seigneur a ressuscité un mort encore à la maison, un mort déjà dans la bière et un mort déjà dans le sépulcre. Mais l'aboutissement de cette scène qui met en évidence la dignité, le calme qui anime cette femme, calme qui est à noter, à remarquer, qui est à la hauteur maintenant de sa foi, de sa spiritualité, et qui rejoint en quelque sorte celui qui anima Abraham, qui, comme on l'a évoqué, a délié son fils de l'autel avec le même calme que celui qu'il avait démontré en le liant sur l'autel. La foi, en quelque sorte, dans sa confiance totale, n'éprouve pas de surprise au moment de la délivrance. Nous le voyons dans le cas d'Abraham. Un calme complet accompagne cette scène finale de Morija. Il n'y a pas de surprise, pas d'exclamation de la part d'Abraham. Lorsque le bouc retenu par les cornes est présenté et peut-être sacrifié à la place de son fils. L'aboutissement de cette scène, c'est la louange. Elle reçoit son enfant, elle est appelée pour la troisième fois, appelle cette tsunamite, il l'appela, et elle vint vers lui, et il dit « Prends ton fils ». Elle vint et tomba à ses pieds, se prosterna en terre. Pas de surprise, pas de scène spectaculaire. Elle avait la foi, une attente confiante. N'avons-nous pas une traduction ou une anticipation de ce que nous avons comme exhortation dans l'Épître aux Philippiens, où nous sommes appelés à exposer nos requêtes, nos supplications avec action de grâce? Alors, il ne nous est pas dit la réponse de Dieu sera immédiate, mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplira vos cœurs. Cette paix inonde le cœur de cette femme, le calme la caractérise aussi bien dans le moment de l'épreuve que dans celui de la délivrance. Elle prend son fils, le résultat de cette délivrance, la conduit à la louange.
Une seule pensée concernant l'attitude d'Élisée au moment où il se trouve en face de la mort. Il peut être dit de lui qu'il montait, il se courba sur lui, il se retirait, allait par la maison, tantôt ici, tantôt là, il montait, se courbait sur lui. Nous avons là tous les exercices d'âme d'un serviteur de Dieu devant la puissance de la mort. Quand les exercices d'âme de notre Seigneur devant la puissance de la mort nous sont exprimés, ils le sont d'une façon toute différente. Marie se tenait là où Jésus était. Elle se jeta à ses pieds. On ne voit pas Jésus monter, aller, venir. Il est non pas à l'endroit où Lazare est là dans le sépulcre, mais un peu à côté de l'épreuve, un peu en dehors de ce lieu de l'épreuve profonde. C'est le lieu où Jésus se trouve, que cette femme Marie se trouve. Et là, Jésus pleura. Ce seul mot nous donne toute la différence entre le modèle et le serviteur. Jésus pleura. Nous avons, frères et sœurs, tous, sur notre route, des circonstances quelquefois mystérieuses, difficiles, impénétrables et qui nous courbent. Sachons venir nous asseoir un moment dans la maison de Sunem. C'est un lieu constant de rafraîchissement parce que Dieu est là et Dieu se révèle.
Je pense qu'il serait intéressant de traiter le restant du chapitre puisque nous avons commencé la réunion avec un certain retard. Nous ajouterons donc ce retard à cette réunion. Donc nous lirons la suite de ce chapitre à partir du verset 38. Et Élisée retourna à Gilgal. Or il y avait une famine, et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Il dit à son jeune homme, « Mets la grande marmite et cuis un potage pour les fils des prophètes. » Et l'un d'eux sortit au champ pour cueillir des herbes. Et il trouva de la vigne sauvage, et y cueillit des coloquintes sauvages, plein sa robe. Et il rentra et les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne les connaissait pas. Et on versa à manger aux hommes, et il arriva que, comme il mangeait du potage, on cria et dit, « Homme de Dieu, la mort est dans la marmite. » Et il n'en pouvait manger. Et il dit, « Apportez de la farine. » Et il la jeta dans la marmite et dit, « Verse-en à ce peuple et qu'il mange. » Il n'y avait rien de mauvais dans la marmite. Il vint de Baal Shalisha un homme qui apporta à l'homme de Dieu du pain des premiers fruits, 20 pains d'orge et du grain en épi dans son sac. Et Élisée dit, « Donne cela au peuple et qu'il mange. » Et celui qui le servait dit, « Comment mettrai-je ceci devant cent hommes ?» Et il dit, « Donne-le au peuple et qu'il mange, car ainsi dit l'Éternel, on mangera et on aura de reste. » Et il le mit devant eux, et ils mangèrent, et ils en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel.
Nous avons dans ce chapitre donc trois cas d'enfants ou jeunes gens. L'enfant de la Tsunamite, qui apparemment était bien jeune, qui est ramené à la vie. Les deux enfants de la veuve du prophète, que le créancier voulait prendre, et qui apprennent à connaître la miséricorde et la grâce de Dieu et sa puissance. Et les jeunes gens, les jeunes prophètes, fils des prophètes, assis autour d'Élisée. Élisée retourne à Gilgal, où il était parti avec Élie. Il y a une famine dans le pays, cela ressemble au temps d'Élie quand il n'y avait pas de pluie. Mais les fils des prophètes étaient assis devant lui. Ces fils des prophètes occupent une place importante dans la vie d'Élisée, on les verra encore plus loin. Mais être assis devant l'homme de Dieu, c'était se laisser instruire par lui, se laisser enseigner, et il semble qu'ils vivaient même ensemble, en tout cas une partie de la journée. Et le prophète va les nourrir. C'est le prophète qui apporte, il dit à son jeune homme, « Mets la grande marmite, cuise un potage pour les fils des prophètes. Il y a toute la nourriture là où est le prophète. » Et on peut penser à un milieu où la parole de Dieu est enseignée, est présentée, où l'on apprend à connaître le Seigneur, où les âmes sont nourries. Mais voilà que l'un des jeunes gens s'imagine de sortir au champ pour cueillir des herbes, de la vigne sauvage, des colocades sauvages, plein sa robe. Il n'en parle à personne, il rentre, les coupe en morceaux de la marmite du potage, on ne les connaissait pas. Et voilà, la mort est dans la marmite. Et bien sûr, on a fait souvent l'application de cette scène. Au lieu de se contenter de ce que le prophète fournissait de la part de Dieu, on veut sortir dehors, on veut aller chercher ici, on veut aller chercher là, où on va apporter un livre intéressant, on va apporter une théorie nouvelle, on la connaît pas bien, mais ça ne fait rien, on va s'en occuper, on va mélanger cela à la nourriture du prophète, et la mort est dans la marmite. Et combien cela arrive? Ça dépend un peu de l'ambiance, des milieux. Je me souviens d'avoir eu des groupes de jeunes gens qui étaient très intellectuels. J'étudiais, j'étais surtout dans les lettres, dans la philosophie, dans diverses choses, pas des études techniques. Et alors ils venaient avec des théories. Ah, mais oui, mais... Vous dites ceci, mais non, c'est pas possible. J'ai lu dans tel livre telle chose, ça va être intéressant d'entrer dans les détails. Mais, alors, c'est la forme, il suffit de deux, trois éléments, n'est-ce pas, pour un peu contaminer tout le groupe. Et la mort est dans la marmite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ils mangeaient du potage, on cria et dit, « Homme de Dieu, la mort est dans la marmite, ils n'en pouvaient manger. » Alors on va jeter tout ce potage, puis c'est un temps de famine, alors on n'aura plus rien. Et le prophète dit apporter de la farine, il la jeta dans la marmite et dit verse-en à ce peuple qu'il mange. Bien sûr, cette farine nous parle du Seigneur Jésus, de sa vie parfaite. Au désert, Élie avait mangé le gâteau qui parle de lui, on l'a déjà vu, l'offrande de gâteau. À Jéricho, Élisée a mis du sel, qui parle de cette séparation du mal, comme aussi de la décision pour Dieu. Ici, c'est une figure de la personne du Seigneur Jésus, dans la perfection de sa vie, de son humanité, cette fleur de farine, où tout est égal, où tout est blanc. Apportez Christ. Je me souviens d'une lettre où notre frère Darby écrivait à un frère un peu découragé de l'état de l'assemblée où il se trouvait, qui lui dit, écoutez, il y a une chose. Apportez patiemment Christ. Et vous verrez que cela changera. Apportez dans votre ministère, en anglais c'est un seul mot, ministering, ministering patiently Christ. Apportez patiemment, patiemment Christ. Et alors, il y aura une œuvre de Dieu pour restaurer. Il n'y avait rien de mauvais dans la marmite. Que la personne du Seigneur ramène nos cœurs vers lui. Nous avons les quatre évangiles où il faut apprendre à voir le Seigneur dans sa marche de serviteur, dans Marc, dans sa présentation à Israël comme Messie dans Matthieu, comme l'homme parfait dans toute sa vie dans Luc, et le Fils de Dieu dans l'évangile de Jean. Mais le Fils de Dieu dans l'évangile de Jean, il est aussi un parfait serviteur, celui que le Père a envoyé. Il est aussi l'homme parfait dans tous les incidents de sa vie. Il est aussi le roi d'Israël, comme dit Nathanaël au début de l'évangile. Et si l'on lit l'évangile de Marc, commencement de l'évangile du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et on le reconnaît aussi comme Fils de Dieu, quand même il est parfait serviteur. Et bien sûr, dans Luc, il est présenté plus spécialement comme l'homme parfait dans sa marche et dans sa vie, et qu'il va de lieu en lieu faisant du bien, mais il est aussi manifesté comme Fils de Dieu, et comme roi d'Israël, et comme parfait serviteur. Et il faut apprendre à voir le Seigneur, à occuper les âmes du Seigneur Jésus, tâcher de discerner quelque chose de sa beauté. Nous vîmes sa gloire, pas seulement à la transfiguration, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Contempler la face du Seigneur dans la gloire, bien sûr, mais aussi le voir dans sa vie, pleine de grâce et de vérité. Alors c'est la pure farine qui réchauffe et ranime les cœurs et est le contrepoison de tant de théories dont on voudrait nous abreuver.
C'est encore sur ces deux scènes. Il peut donc y avoir encore une bénédiction collective dans un temps de disette. Et oui, il peut y avoir une bénédiction collective. Mais on s'est assis à Gilgal, c'est le lieu qui convenait. Apporte la grande marmite, dit le prophète. Mais prophète, tu te trompes. Dans un temps de disette, c'est la toute petite marmite qu'il faut apporter. Apporte la grande marmite. Et les fils des prophètes se sont assis autour du prophète qui va nourrir. Le potage est préparé. Tiens, quelqu'un se lève, il court au champ. Pendant que tous ces oisifs sont là, qui attendent qu'on leur apporte la nourriture à la bouche, lui, il va chercher à améliorer le potage, apporter quelque chose qu'il ne connaissait pas. Mais il est fier à son retour d'avoir beaucoup travaillé, de s'être beaucoup activé pendant que les autres restaient assis. Et voilà que tout est gâté. On nous a dit ce que sont les doctrines, les voies étrangères, tant de choses que l'on veut apporter. Mais le prophète connaît ce qui annule la mort qui est dans la marmite. L'excellence de la personne de Christ. Ce qu'a fait ce jeune homme, ça a été commencé dès le début de l'histoire du monde. Adam aussi, en Éden, avait cherché à améliorer le menu que Dieu lui donnait. Nous en connaissons les conséquences. En contraste, Baal Shalisha, un homme vient. Oh, il n'a rien. Quelques pains d'orge et encore, il n'a pas eu le temps ni de vanner, ni de battre. Il a tout mis dans un sac et le voilà. Pourquoi? Oh, il a un seul intérêt, celui du peuple de Dieu. Si peu de choses et des pains d'orge, une nourriture grossière, une nourriture non préparée, mais parce qu'il aime le peuple de Dieu, alors il court. Non pas au peuple, mais au prophète. Il met ça devant l'homme de Dieu. Et avec cette nourriture-là, le peuple sera nourri 100 hommes et il y en aura de reste. C'est peu de choses qu'un pain d'orge, que 20 pains d'orge. Mais sachez, mes frères et mes sœurs, que quand on a faim, il nourrit quand même.
Dans ce passage, il y a donc la responsabilité de celui qui donne à manger et l'autre côté, ceux qui mangent. Et ceux qui sont en train de manger ne craignent pas de lancer ce cri d'alarme. Et il est salutaire. L'amour dans la vérité fait pousser des cris d'alarme. On ne passe pas son temps à accuser celui qui malheureusement a apporté le coloquin sauvage. La confusion qui l'a rempli a été sans doute salutaire, mais un cri est lancé. Et nous sommes appelés à lancer le cri d'alarme quand cela est nécessaire. L'homme de Dieu dont il a été parlé, Timothée, est invité à se nourrir, mais pas de n'importe quoi. Paul nous dit dans la première épître au chapitre 4, en proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Ensuite, il y a des choses à rejeter, mais rejette les fables profanes et ne vieilles pas. Et exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Ce qui caractérisait Élisée, c'était la piété qu'il se tenait devant l'Éternel. Si les colocains avaient laissé sans doute sur les mains de celui qui les avait cueillis l'empreinte de leur jupe, et sans doute des taches dans sa robe, les mains de l'homme de Dieu étaient empreintes de cette farine parlant de la personne de Christ. Maintenant, il y a la responsabilité de celui qui donne à manger, et nous lisons seulement un verset dans l'Évangile de Luc au chapitre 12. Et le Seigneur dit, « Qui donc est l'économe fidèle et prudent ?» que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner, au temps convenable, leur ration de blé.
Ce récit ne présente-t-il pas aussi l'aspect d'une parabole présentant la responsabilité de l'homme et l'intervention de la grâce ? L'homme a été placé dans un jardin de délices où tout répondait parfaitement aux aspirations de sa nature parfaite, car Dieu voulait le bonheur de sa créature. Mais Satan est là pour dire à l'homme qu'il lui manque quelque chose à son bonheur. Il veut ajouter quelque chose à ce que Dieu donne. Le fruit défendu, nous connaissons les conséquences. N'est-ce pas un peu ce que nous avons ici? La nourriture préparée, ce qui était destiné à ces fils des prophètes, répondait pleinement à leurs besoins, mais on y ajoute quelque chose. La table du Créateur était parfaite, elle était suffisante, mais on veut ajouter. Et la fin de la parole, la fin de l'Apocalypse nous met en garde quant à la responsabilité et au jugement qui atteindra celui qui ajoute quelque chose à la parole de Dieu comme aussi à celui qui en retranche quelque chose. Mais nous avons alors l'intervention de la grâce. Nous en avons parlé, la farine qui est versée dans la marmite par l'homme de Dieu. Nous nous trouvons alors non plus à la table du Créateur, mais nous mangeons les mets du Rédempteur. C'est la seconde table. Tout est assaini, tout est profitable, il n'y a plus rien de mauvais dans la marmite. Intervention de la grâce. Nous ne saurions mettre en doute le zèle de celui qui est allé chercher des coloquintes. Ce zèle est démontré par le fait qu'il en remplit sa robe. Mais il est accompagné de manque de dépendance et d'ignorance. Il est ignorant, mais accomplit une activité. N'est-ce pas un danger de nos jours? On va chercher avec zèle, avec empressement, ce que l'on croit contribuer au profit commun. Et on sort de la scène de la bénédiction, on s'écarte en quelque chose pour aller chercher dans les champs d'à côté ce qui comporte un élément qui va produire la mort. Bien des exemples dans la parole mettent l'accent sur un fait semblable. Lorsque Joseph est allé chercher ses frères à Sichem, ils étaient partis à Dothan. Lorsque Élimélec a senti la famine, il a quitté la terre donnée pour aller dans une terre étrangère. Nous en connaissons les conséquences. Mais alors, quel contraste avec l'exhortation faite par Boaz à Ruth. « Ne va pas, ma fille, glaner dans un autre champ. » Méfions-nous de ce que nous ne connaissons pas. Nous avons le privilège et nous voudrions nous adresser d'une façon particulière à la jeunesse. Nous avons le privilège d'avoir entre nos mains la parole de Dieu et l'aliment par excellence. Nous avons le privilège aussi d'avoir entre nos mains un ministère écrit qui nous a été laissé par des serviteurs qui n'avaient pas d'autre objet dans le cours de leur service que la gloire de Dieu et la bénédiction des croyants, la bénédiction de l'homme. C'est une nourriture qui est connue, qui a été appréciée par ceux qui en ont discerné la valeur. Nourrissons-nous des choses connues dont les preuves ont été fournies, qui ont contribué à l'affermissement spirituel des rachetés, à la bénédiction du témoignage de Dieu. Ne cherchons pas, même avec zèle, ce que nous ne connaissons pas. Mais sachons que dans un temps de famine, dans un temps de petites choses telles que celui qui caractérise nos jours, il y a encore la possibilité de nous nourrir avec profit à la table du Rédempteur et de pouvoir nous trouver là, dans un temps de famine, autour d'une table garnie, pour savourer, apprécier, comme le fit jadis la reine de Sheba, les mets de sa table.
Dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 11, Paul peut dire au verset 3, et le savoir des Corinthiens et la bonne opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes et les dons qu'ils possédaient ne les mettaient pas en mesure d'échapper à ce danger. Je crains, verset 3, que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Car, dit-il, si celui qui prêche un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent de l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent, un évangile frelaté, voilà les colloquintes sauvages, pour en venir à quoi? Bien, Paul dira dans l'Épître aux Colossiens, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Verset 8 du chapitre 2. « Par la philosophie et de vaines déceptions, des enseignements de l'homme, les colloquintes sauvages. » Et nous les retrouvons, ces colloquintes, à la fois dans la cuve du tabernacle et sur le sol du tabernacle. Il y avait des sculptures de colloquintes pour montrer que dans la maison de Dieu, ce péché a été aboli. S'il y avait des sculptures de colloquintes, c'est pour nous montrer que tout ce qui est de l'homme a pris fin. Et il y en avait lié 5 par coudée, montrant bien qu'il s'agit de la responsabilité de l'homme dans la cuve des reins. il y en avait sur le tour de la cuve d'airain, qui nous parle, elle, de la parole de Dieu, qui fait face à tous les besoins, et qui met de côté tout ce que nous sommes. Elle discerne les pensées les plus secrètes du cœur, sonde le cœur et la conscience, épître aux Hébreux. Et elle met à nu ainsi, elle met en évidence ce qui est de l'homme, les colloquins sauvages, pour présenter Christ, le vrai pain, le pain d'orge, même si apparemment c'est un pain rude et grossier, mais un pain qui nourrit, un pain qui donne et qui entretient la vie.